voix nue. Cette semaine, Pauline Chanu rencontre Pierre Rabhi. Ce soir, les Cévennes, un retour à la terre.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Vous êtes paysan, écrivain et poète. Vous sillonnez la France et une partie du monde depuis 60 ans pour promouvoir l'agroécologie. Car selon vous, elle pourrait nourrir le monde et concilier santé de la terre et des hommes qui la travaillent. Oui. Hier, vous nous avez raconté votre enfance à Kenatsa, aux portes du Sahara algérien, quand vous vous appeliez encore Rabha Rabhi et comment vous êtes devenu Pierre Rabhi à l'âge de 15 ans. Ce soir, vous allez nous expliquer ce que signifiait pour vous le retour à la terre, un retour que vous avez fait en France et non en Algérie. Pourquoi avoir choisi de venir en France ?
Parce que les conditions, disons, en Algérie n'étaient plus tellement viables pour moi. Je sentais bien que je ne pouvais pas m'engager en Algérie à long terme. Quoi faire en Algérie ? Donc j'ai migré, comme pas mal de gens qui migrent encore. Et puis, ma migration m'a amené à Paris et à partir de là, j'ai essayé de m'enraciner dans le pays et j'ai commencé par être un ouvrier dans une entreprise. Et puis petit à petit, je me suis familiarisé avec le pays et devenu donc français à part entière, si on peut dire.
Nous sommes en 1959, vous avez 20 ans. Vous considérez que la France à ce moment-là, c'est... Vous l'appelez en tout cas la métropole magique. Qu'est-ce que vous imaginiez que vous trouveriez en France ?
C'était le temps du progrès, le temps des miracles technologiques de toutes sortes qui étaient déjà pas mal avancés. Et donc c'était un petit peu un monde complètement, on pourrait dire, artificiel quand même. Déjà en quittant l'Algérie, j'étais déjà dubitatif parce que je comprenais pas très bien en quoi... Il y avait progrès, sinon celui de la technologie, des voitures, toutes les magies créées par le monde actuel. Mais bon, j'étais pas tellement fasciné par ça.
Comment vous vivez votre arrivée à Paris ?
J'arrive à Paris un peu en solitaire, comme le prototype de l'émigré, avec quelques recommandations très aléatoires d'amis en Algérie. Entre autres une directrice d'une école d'infirmières où était ma sœur adoptive, parce qu'il y a eu d'autres enfants adoptés avec moi. Et puis voilà, je pars à l'aventure avec en sachant pas très très bien où j'allais. Puis finalement, j'ai trouvé un boulot dans la région parisienne, à Puteaux, chez Someca, tracteur, machine agricole, et où je suis devenu un OS, un ouvrier spécialisé. Et à partir de là, j'ai pu m'enraciner à partir de mon petit salaire d'ouvrier spécialisé.
Comment vous avez vécu cette expérience ?
Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'autant dans la banque, j'étais aussi à Oran, j'observais la condition humaine, parce que j'étais amené à ça, à observer la condition humaine et pas simplement à intégrer les choses comme si elles étaient dans les normes. Donc c'était pour moi initiatique, c'est-à-dire que ça m'initiait à la fois au monde moderne et à la fois à la condition humaine. Et là aussi, quand j'ai travaillé comme magasinier, ce qui revenait toujours, c'est la forme d'incarcération. C'est-à-dire que où finalement, dans la modernité, il faut troquer une grande partie de sa vie contre un salaire. Et je trouvais que c'était quand même un peu abusif de donner toute son existence uniquement parce qu'il faut bien survivre d'un salaire. Un être humain, pour moi, n'est pas né pour servir un système. Il est né pour vivre, d'abord. Mais comme l'organisation du monde est faite sur comment utiliser l'être humain dans une aventure qui est une aventure technologique, qui est passée par pire. On est passé, par exemple, par le travail à la chaîne. Une personne humaine à qui on demande de faire le même geste toute la journée et toute l'année, etc. C'est quand même une confiscation de la liberté. C'est quand même, pour moi, c'est un mépris de l'être humain.
Pierre Rabhi, à ce moment-là, vous rencontrez votre future femme, Michel, et vous décidez ensemble, 2 ans seulement après être arrivé en France, que vous vouliez une autre vie. Vous partez pour un projet.
Le projet de retour à la Terre, c'est-à-dire de comment nous remettre dans le champ du vivant, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on passe du champ de l'artificiel au champ du vivant. Et le champ du vivant, ben c'est ce rapport à la nature, aux arbres, à la terre, aux animaux, au ciel, au coucher de soleil, à tout ça. C'est sur ce besoin que nous avons décidé, Michel donc, et moi, on devait associer nos existences pour cheminer ensemble. On a décidé qu'il fallait le faire dans un lieu où la vie est patente, elle est réelle, c'est-à-dire la nature.
Pourquoi avoir choisi les Cévennes ardéchoises ?
Là, c'est un peu, on peut dire que c'est le hasard ou la chance ou je sais pas quoi. À l'époque, je parlais de ce besoin de retourner à la terre, un peu à la cantonade, comme ça. Et puis, il y a un jour, un prêtre, un moine d'ailleurs, dominicain, qui me dit, vous cherchez à retourner à la campagne, ben, je connais un monsieur qui s'appelle le docteur Richard, qui milite pour le Parc National des Cévennes, qui est un écologiste convaincu, en même temps un médecin de campagne, etc., etc. On écrit à ce monsieur et la réponse a été, bah oui, pourquoi vous n'avez pas tenté votre chance? Et on peut dire que c'est lui qui nous a mis un peu le pied à l'étrier pour pouvoir engager toute cette histoire. Ils nous ont fait venir en Cévennes, nous nous sommes mariés en Cévennes, et donc bah, petit à petit nous nous sommes installés, pas toujours facilement parce que nous n'avions pas évidemment de moyens financiers pour pouvoir avoir un retour à la terre facile, mais ça a été un retour quand même comme une aventure intéressante avec ses difficultés. Même les difficultés ont été très initiatiques pour nous.
Mais est-ce que dès le départ vous avez en tête de faire de l'agriculture ?
Absolument, absolument, sans rien connaître à l'agriculture. Et donc, comme je ne connaissais rien à l'agriculture, et que nous n'avions pas de moyens financiers, que nos parents n'étaient pas forcément d'accord avec notre projet fou, complètement fou. Pour beaucoup de gens, c'est un projet complètement de cinglé, quoi.
Vous le dites, vous n'avez aucune connaissance en agriculture.
Oui.
Comment vous allez vous former à l'agriculture ?
Eh ben, naïvement, j'étais allé voir au Crédit Agricole pour dire « prêtez-moi de l'argent pour acheter une ferme ». Et du coup, ils me disent « est-ce que vous savez travailler ?» Je dis « non ». Bon, ben, allez apprendre et puis on discutera après. donc, pour apprendre, moi, je suis allé dans une école, ce qu'on appelait les maisons familiales rurales, qui initiaient les enfants d'agriculteurs. Et je suis devenu le doyen, puisque moi, j'étais déjà père de famille quand je suis rentré à l'école, pour apprendre le BA de l'agriculture et les bases. Et puis l'agriculture, ben c'est concret, c'est du travail, c'est pas simplement des mots et des verbes. Donc je suis allé apprendre et je suis devenu ouvrier agricole. J'allais travailler chez les uns, chez les autres, en prestation. Et comme ça, j'apprenais. Et c'est là que ça a été la grande révélation. La grande révélation a été que l'agriculture était fondée sur la chimie de synthèse, sur les pesticides, les engrais chimiques, disons tout ce qui empoisonnait, faisait du mal à la nature, était utilisé pour produire notre propre nourriture. Donc il y avait une contradiction. Et à partir de là, ça a été le désespoir, parce que je me suis dit, moi je n'ai pas envie de rentrer dans ce système où j'empoisonne tout pour pouvoir survivre. Et c'est de là que j'ai su qu'il existait des méthodes dites biologiques, biodynamiques, etc. Et qu'on n'était absolument pas obligé d'empoisonner la terre qui nous nourrit pour nous nourrir. Et c'est à partir de là que j'ai découvert Steiner en particulier, la biodynamie, et puis toute l'agriculture biologique. Et à ce moment-là, j'ai évidemment opté pour l'agriculture biologique. Et donc j'ai cherché, et puis un jour on m'a signalé un lieu, et je suis allé voir ce lieu, et je me suis dit, quelque chose en moi a dit, c'est là. Voilà. Donc une fois que ça a été défini, donc je retourne, j'avais mon diplôme bien sûr, le brevet d'apprentissage agricole, je justifiais de 3 années d'ouvrier agricole, donc mon dossier était recevable par le Crédit Agricole. Et à ce moment-là, quand ils me disent, maintenant, on peut vous prêter, mais vous avez trouvé quelque chose? Je dis, oui, on a trouvé quelque chose. Mais la description du lieu les a complètement déconcertés. Il n'y a pas d'adduction d'eau, il n'y a pas d'électricité, bien entendu pas de téléphone, la terre est pleine de cailloux. Ils ont dit, nous, monsieur Rabhi, on ne peut pas vous prêter parce qu'on ne peut pas vous aider à vous suicider. Vous n'allez jamais vous en sortir sur un lieu pareil, selon leurs critères. Sauf qu'il était difficile de leur dire le choix que nous avons fait. Qu'est-ce qui a pesé lourd dans notre choix? C'est que le lieu est très beau. Et ça, c'est du luxe. Le grand luxe, c'est d'être dans la beauté. Voilà. Et ça, comment faire comprendre un monsieur qui est dans la comptabilité, dans les rentabilités, lui faire comprendre une chose comme ça sort complètement, ça devient complètement surréaliste. Et du coup, on a insisté, et il y a un sénateur qui nous avait pris sous son aile et qui intervient auprès du comité du Crédit Agricole pour dire, écoutez, ils vous demandent si peu d'argent que même si... Oui, mais ils vont se casser la figure, jamais ils ne réussiront, etc., etc. Eh ben, s'ils ne réussissent pas, vous récupérez votre bien. Et ce sera pas... Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes implantés. Et ça a été vraiment d'être inclus dans cette nature où vous voyez 17 clochers, vous regardez partout, il y a le silence, il y a... tout ça qui a été le critère essentiel pour dire nous voulons vivre là. C'est un plateau, un petit plateau, disons, de garrigue sauvage, donc beaucoup de cailloux, beaucoup, avec une flore comme le thym, abondant, etc. Et puis, ce qui était intéressant, alors c'est vraiment des cultures sur épierrement. Ceux qui nous ont devancés, pour pouvoir travailler un peu de terre, il fallait ramasser les cailloux et sortir les cailloux et les entasser en espèce de tumulus pour dégager un peu de terre labourable. Voilà, c'était donc une terre d'héroïsme en quelque sorte. Et moi, ça m'a paru splendide. Et c'est là où on s'est dit, bon, le lieu. Le lieu a forcément une vocation, c'est-à-dire un biotope a forcément une vocation. Et ce qui nous a paru être le mieux adapté, disons, à notre implantation, c'était la chèvre. La chèvre et la roche, le caillou. On est au bord d'un bois étrange qu'on appelle le bois de paille-olive. Eh bien, on a constitué, bien sûr, il fallait réparer la maison, il fallait, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y a une richesse qui m'a été donnée par mes aïeux, par mon père, etc. C'est l'habileté manuelle. Et donc, je me suis transformé en maçon. J'ai moi-même rebâti, reconstruit. J'ai fait de la menuiserie. J'ai fait même de la fonderie pour fabriquer des statues en bronze. J'ai fait toutes sortes de... Et en même temps, ce qui m'a sauvé, c'est que j'allais réparer les maisons des autres. Donc, j'avais un métier. Et comme à l'époque, il y avait pas mal de gens qui achetaient des résidences secondaires. Alors, il y avait à la fois l'abandon de pas mal de maisons et des résidences secondaires. Donc, ça, la concordance des deux, elle est très bien. Donc, les gens achetaient des vieilles maisons et me demandaient de les réparer. Ce qui fait que je suis devenu maçon, je gagnais ma vie en réparant les maisons, plus toutes les autres activités un peu annexes comme complément. Pendant ce temps-là, Michel donnait des cours de secrétariat. On s'est démené, démené, démené pour survivre. On était en état de survie à un certain moment. Vraiment en état de survie. On se demandait même par moment, est-ce qu'on va tenir, est-ce qu'on va tenir. Et puis à un moment, les choses se sont bien stabilisées. Tout s'est mis en place. La seule question, moi, qui me préoccupait, c'est que est-ce que nos enfants vont être d'accord avec le choix que nous avons fait de les isoler finalement de la société, sans les isoler. Ils ont été ravis d'être là plutôt que dans un immeuble où on a 15 mètres carrés, quoi.
Donc vous avez cumulé pendant plusieurs années plusieurs emplois, Michel, votre femme et vous, pour subvenir aux besoins de votre famille. Au bout de combien de temps vous avez pu vivre uniquement de ce que vous produisiez à Montchamp? Quand est-ce que c'est devenu viable et vivable?
Oh, il faut compter bien une dizaine d'années. Le temps que le troupeau soit constitué, le temps que le troupeau qu'on puisse faire du fromage de chèvre, le temps de vivre, d'aller vendre les fromages au marché, gagner de l'argent. Donc il a fallu quand même un certain temps où j'ai fait de la sculpture, où j'ai fait toutes sortes d'éléments manuels. En même temps, je commençais à écrire un petit peu. Et c'est grâce à cette habileté, au courage de Michel, etc., que nous avons pu surmonter les énormes difficultés qui nous tombaient dessus. Où finalement, d'année en année, je me disais, est-ce qu'on va vraiment pouvoir tenir, ou est-ce qu'il ne faudra pas retourner, trouver un boulot et donc les choses se sont faites comme ça, quoi.
Vous avez vécu plus de 10 ans sans électricité, avec très peu d'eau, très peu de moyens et donc une famille de 5 enfants à nourrir. Plus tard, beaucoup plus tard, vous avez parlé de sobriété heureuse.
Oui.
Est-ce que vous diriez que ce moment-là de votre vie était un moment heureux ?
Oui, heureux et inquiet. parce qu'on n'était pas sûr de quoi. Enfin, moi, j'étais à la fois heureux et j'étais à la fois dans une espèce d'anxiété. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ou pas tenir ? Voilà. Et comment nos enfants vont apprécier ou non, ou ne pas apprécier le choix que nous avons fait et que finalement on leur impose. Et ils sont rentrés dans l'aventure, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont partagé notre aventure. Et comme il y avait tellement de travail, les aînés, ils ont travaillé, et ils en étaient très heureux, ils ont appris beaucoup de choses, ils ont développé leur habileté, ce qui n'a pas du tout occulté aussi ce qu'on appelle l'art. Ils sont tous musiciens. J'ai même un fils qui est premier prix du conservatoire pour, guitare. Et la musique a habité la maison. Moi-même, j'ai pratiqué la musique. Enfin, je prétends. J'ai eu un grand ami qui s'appelait Yehudi Menuhin. Donc, c'était pas rien. Quand il m'appelait mon cher collègue, je me sentais plus, quoi. Parce que moi, je torturais un violon. Non, il était adorable. Donc la musique, là, je veux dire qu'on n'est pas rentré simplement dans un champ pratico-pratique, mais la dimension artistique, la dimension spirituelle, et bien sûr la dimension pratique, etc., étaient associées et constituées une seule et même entité qui, en fait, donnait un mode de vie particulier. Ça, rien n'était négligé. Et en plus, par la littérature, comme je me suis mis à écrire, etc., ça m'a aussi donné, moi, ma propre dimension, disons, artistique, si on peut dire. Et du coup, j'ai commencé par écrire le premier bouquin, c'était du Sahara aux Cévennes, où c'était mon itinéraire, effectivement, du Sahara aux Cévennes.
Et, en 1983.
Voilà. Et comme il y avait un prix des Cévennes, j'ai eu le premier prix. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis trouvé engagé dans la littérature. Et nous avions la chance de vivre au sein d'une nature magnifique. Voilà. Donc on était des privilégiés.
Donc il a fallu plus de 10 ans pour que vous viviez de l'agriculture. Au bout de 10 ans, elle ressemble à quoi, la ferme de Montchamp ?
La ferme de Montchamp, elle a été beaucoup aménagée entre ce qu'elle était quand on l'a trouvée, un simple bâtiment, un peu vétuste, un peu, etc. Et à l'époque, on n'avait pas l'eau, donc on a eu l'eau. Il n'y avait pas d'électricité, nous avons eu l'électricité. Et puis, le chemin était à peine praticable, il est praticable. Aujourd'hui, c'est une entité complètement aménagée, dans un lieu qui est très beau, et tout est aménagé.
Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de culture ?
On a cultivé de tout, on a cultivé des céréales, on a planté des arbres fruitiers, on a planté des oliviers, pour avoir de l'huile, on a aménagé, et il faut repréciser que c'est au milieu des cailloux, c'est-à-dire... Quand on labourait, il y avait tout le temps des cailloux qui ressortaient. J'ai posé sur une espèce de tumulus et on rajoutait notre petite part de cailloux à celle de ceux qui nous ont précédés. Parce que depuis des décennies, tous ceux qui ont occupé le lieu ont épierré, puisqu'il n'y a pas de terre. Donc nous avons amené notre petite quote-part de cailloux rajoutée au grand tumulus, qui est l'entassement qui était sur place. Et puis on a vécu une vie sociale vraiment intéressante avec des gens Parce que nous n'étions pas des retours à la terre, simplement retour à la terre. Ce qui intéressait les gens, c'est que ce retour à la terre était, on pourrait dire, soutenu par une philosophie. C'était pas simplement retourner à la terre pour être dans la nature. C'était aussi une philosophie, c'était aussi l'art qui n'était pas négligé. C'était aussi tout cela qui a fait que on a eu des amis absolument extraordinaires qui sont venus, avec lesquels on a eu des dialogues philosophiques extraordinaires, avec lesquels, donc, lieu de culture et d'agriculture.
Parce que quand vous arrivez dans les Cévennes, on est au début des années 60, on est en pleine guerre d'Algérie. Vous arrivez dans les Cévennes ardéchoises, personne ne vous connaît, et donc vous avez été tout de suite bien accueilli.
C'est-à-dire que ce qui m'a fait m'introduire dans le monde, c'est d'avoir été ouvrier agricole. C'est-à-dire que je ne suis pas venu comme ça, j'ai travaillé dans des diverses fermes, j'ai été dans une école, une maison familiale rurale qui éduquait les jeunes paysans à l'agriculture. Je me suis fait des amis, dont un ami qui a été très important, un paysan authentique, qui est devenu un grand ami. Lui-même avait choisi l'agriculture biologique et il était parmi les rares paysans authentiques qui avaient choisi l'agriculture écologique, puisqu'on était plutôt dans le monde d'exploitants. Et puis un tissu social s'est constitué d'amis de toute catégorie. Une fois, je me promenais au marché avec Yehudi Menuhin. Les gens se frottaient les yeux, ils voyaient un type qui est universellement connu comme un immense musicien, qui était chez nous. Edgar Pisani, par exemple, qui était ministre de l'époque de l'agriculture, était chez nous, etc. Donc, au-delà de la condition simplement matérielle, il y avait aussi un rapprochement des consciences et des âmes, c'est-à-dire la fraternisation par les âmes et le cœur, et pas seulement par la catégorie sociale. On allait au-delà des catégories, on s'en foutait des catégories sociales. On recevait aussi bien les gens modestes dans la vie que des gens importants dans la vie, sans discrimination de qui que ce soit, et sans pour autant nous flatter d'être les amis de ceci ou de cela. Pour moi, ce qui était important, c'était l'identité de l'être humain lui-même, c'est-à-dire sa conscience, comment il se positionne, son humanisme, c'est ça ce qui m'intéressait. J'étais pas forcément fier parce qu'une quelqu'un avait un grand titre social. Je m'en fous vraiment, et encore maintenant, je m'en fiche complètement. Moi, il y a des gens qui ont acquis, disons, une truc, mais qui sont pas forcément des gens évolués humainement.
Vous diriez donc que l'intégration a été facile? Vous n'avez jamais été confronté à la question du racisme?
Non, pas ouvertement. Probablement qu'il y avait des gens qui étaient dans cette posture de l'étranger, de je sais pas quoi, de l'arabe, du noir, de enfin, ce qu'on voudra. Mais moi, ayant été cautionné par mon ami médecin de campagne, ensuite j'ai travaillé chez des paysans cévenols qui m'ont estimé, et mon intégration n'a pas été si difficile que ça. Simplement la singularité. J'étais atypique. Les gens pensaient que j'avais une instruction formidable et qu'est-ce que je viens foutre dans les Cévennes, quoi. Parce que c'était l'époque des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'au moment où la machine sociale, économique fonctionnait à plein rendement. Parce que je me souviens, le boulot, il n'avait pas. Chômage, l'indice du chômage, c'était quelque chose de 2 ou 3%, c'est tout. Et encore rotatif, c'est-à-dire, je perds mon boulot aujourd'hui, et demain j'en trouve un autre. Parce que la machine offrait, l'offre était énorme. Et donc la demande était satisfaite aussitôt que l'offre.
Et en fait, j'imagine aussi que parce que ces régions-là étaient désertées par les paysans, de voir arriver quelqu'un qui veut faire de l'agriculture, c'était plutôt bien perçu, j'imagine.
Non, c'était perçu comme cinglé, quoi. Comme le type déjanté qui vient. Parce que les gens partaient, leurs jeunes, ils leur disaient surtout ne reste pas là, quoi. Va ailleurs, cherche cherche dans ton aventure propre, cherche ton boulot, etc., etc. Il faut pas croire que même les paysans valorisaient tellement que ça leur fonction, parce qu'ils se vivaient eux-mêmes comme des attardés. Et on leur faisait bien comprendre qu'ils l'étaient, hein, parce que l'arrogance du civilisé, de celui qui est dans la ville, etc., par rapport au regard qu'il avait sur le paysan, le pauvre attardé, etc., c'était ça. C'est-à-dire que l'appréciation humaine était extrêmement divergente, et le paysan était dégradé, quoi. C'est-à-dire, et même les paysans disaient eux-mêmes, on en sait toujours assez pour faire un paysan. Ils se sont vécus comme des attardés, comme des pauvres types. Et moi, quand j'allais faire des stages chez les paysans authentiques qui parlaient encore patois, etc., hein, j'ai eu le bonheur de rentrer dans ce monde-là. Et chaque fois, ils me disent, oui, on voit pas. Toi, tu es instruit, on n'a rien à t'apprendre. Je disais, mais non, c'est pas vrai. J'ai beaucoup à apprendre de vous. Ils avaient du mal à on les avait tellement humiliés, dégradés, etc., qu'ils se vivaient comme des grands ignorants. Et ben, on prend un type, comment on greffe? On ne sait pas greffer. Ben, il faut apprendre à greffer. À quel moment on va semer tel truc? Quelles sont les plantes qui vont ensemble, etc. Ils avaient une connaissance extraordinaire, mais qui a été laminée complètement par l'arrogance moderne. Et sur l'ensemble de la planète. Les gens qui, pendant des siècles, ont su vivre dans des conditions précaires, où ils ont su construire leur maison, ils ont su tout faire pour leur propre survie, on arrive, on dit, c'est des pauvres types. On n'aurait jamais dû laisser ça. Il aurait fallu garder les valeurs qu'avaient ces gens-là et les prendre vraiment en compte. Alors, quand on est arrivé, c'était des gens, des paysans, donc ils vivaient de la terre, de leurs animaux, ils savaient gérer tout ça, leurs animaux, leurs terres, etc. Ils savaient survivre, ils savaient transformer ce qu'ils obtenaient de la terre, etc. Ils ont survécu, ils construisaient eux-mêmes leur maison, ils savaient énormément de choses. Et ben, ils étaient perçus comme des ignorants. Voilà le drame. Voilà.
Et donc vous, Pierre Abi, vous avez participé à réhabiliter la figure du paysan. Merci Pierre Abi. Demain, vous nous raconterez, si vous le voulez bien, comment, à partir du modèle de votre ferme familiale de Montchamp, vous avez enseigné votre vision de l'agroécologie un peu partout dans le monde, et notamment au Burkina Faso. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pauline Chanu avec Pierre Rabhi. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Éric Audra, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.